Bienvenue dans Bon Sang, le podcast qui questionne la féminité. Aujourd'hui, je vous partage ma discussion avec Marion. Comme pour toutes mes amies, j'ai beaucoup d'admiration pour Marion, pour son parcours et pour sa personnalité. Dans cet épisode, elle m'a parlé de son enfance dans le nord de Paris, de sa vision du monde professionnel et de maquillage. On aurait toutes les deux aimé que ça dure plus longtemps, mais malheureusement le couvre-feu et puis aussi la fatigue nous ont interrompus. Par avance, si cet épisode vous plaît et que vous voulez soutenir le podcast, partagez-le à vos proches. Vous pouvez également suivre le Clo-Clo Club sur Instagram, où j'annonce les nouveaux épisodes et partage plein d'autres choses. Sur ce, je vous laisse avec Marion. Salut Marion.
Salut.
Je suis contente de t'avoir sur Bon Sang. Marion, on est amies dans la vie, voilà, comme beaucoup des interlocuteurs que je reçois sur ce podcast. Initialement, on s'est rencontrés pendant nos études, c'était un peu perdu de vue, et puis aujourd'hui, on travaille ensemble depuis un peu plus d'un an maintenant.
Le monde est petit.
Ouais, c'est ça. Paris est petit, rappelez-vous. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans ton parcours et dans le mien, c'est qu'on a beaucoup de similitudes sur nos vies privées qui m'ont toujours fait rire. Des expériences en tout cas communes qui, je pense, vont rentrer dans le cadre de ce podcast et peuvent être intéressantes à partager.
Totalement.
On va commencer avec la question aussi difficile, surprenante que facile. Ça veut dire quoi pour toi être une femme ?
Alors, être une femme, déjà c'est vraiment un concept et pour moi plus, au départ en tout cas, une étiquette, disons, qu'on m'a mise. Moi, j'ai appris que j'étais une femme parce qu'on me l'a appris, quoi. Je m'en suis pas rendue compte toute seule. Je voyais bien que quand j'étais à l'école, qu'il y a eu un passage vraiment où j'ai commencé à plus pouvoir me comporter vraiment comme je voulais. Jouer avec les garçons comme j'avais l'habitude de jouer avec les garçons au départ. Enfin, il y a eu vraiment cette séparation garçon-fille. Dans les années 90, il y avait encore beaucoup ce truc de chacun a ses jeux, les filles ont leurs jeux, les garçons ont leurs jeux. Voilà, donc c'est vraiment le moment un peu fondateur de cette idée-là où je me suis fait un peu exclure, on va dire, du groupe des garçons et j'ai découvert du coup que j'étais une fille. Donc ce qui a été assez difficile à vivre au début évidemment et puis finalement avec le temps qui passe, mais je veux dire c'est plutôt même une réalisation plutôt récente, je me rends compte qu'en fait c'est plutôt une force que quelque chose de négatif, qu'on est pas mal finalement dans la team des filles par rapport à ce que j'imaginais en étant enfant. Il n'y a plus du tout ce sentiment d'exclusion mais au contraire un peu un sentiment d'appartenance. Un groupe qui a plein de valeurs en commun, avec de la bienveillance, avec de l'écoute, avec de la communication, avec tout un tas de choses, en fait, qui... C'est aujourd'hui ça que je rattache au concept, vraiment, de la féminité, plus que d'être pas un garçon, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, c'était peut-être juste une soustraction.
Ouais.
Et maintenant, j'y vois plutôt plein d'opportunités et plein de... Il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais en tout cas, c'est ce que je vois de plus en plus, et c'est comme ça que j'accepte aussi de plus en plus cette idée-là, que je suis une femme, du coup.
Ouais, c'était compliqué d'accepter ça au début.
Ouais, c'était compliqué, et j'ai fait une grosse, grosse crise à mes parents quand je me suis retrouvée exclue par les garçons à l'école, et puis aussi catégorisée par les élèves. Quoi.
Moi, c'était quoi, peu, école primaire ou
à l'école maternelle. L'école maternelle. Et c'était dans le même temps que j'ai eu une petite sœur, donc au départ, c'était censé être un petit frère. C'était un petit frère sur toutes les échographies et en fait, c'était une petite sœur, finalement. Donc c'était pour moi une mauvaise surprise parce que je voulais absolument que ça soit un garçon. Parce que ça aurait été du coup une sorte d'ami qui lui m'aurait pas rejeté. Mais bon, on sait bien qu'un jour, ça serait pas passé comme ça. Mais en tout cas, en étant enfant, c'est un peu l'idée que j'avais. Et voilà. Et donc, c'est le moment où j'ai réalisé que... Finalement, les filles et les garçons n'avaient pas les mêmes activités, pas les mêmes jeux, du coup pas les mêmes droits aussi d'une certaine manière, parce qu'on devait avoir un comportement différent. Et aussi, en tant que fille, on est obligé de sociabiliser avec les autres filles, et de sociabiliser tout court d'ailleurs. Et ça, je l'ai vraiment ressenti très rapidement, parce qu'on était un peu utilisées comme des médiatrices déjà à l'époque, à l'école, même en maternelle. Je me rappelle, en moyenne section, grande section de maternelle, on était souvent envoyées, nous les filles, pour aller régler les problèmes des garçons.
On a eu la même chose. Voilà. Vraiment, c'était les camps des filles, le camp des garçons, et puis c'est toujours les filles qui viennent pour régler les problèmes.
Ouais, donc c'est vrai que c'était assez amusant, parce que c'était vraiment... Enfin, systématiquement le même schéma qui revenait. Et moi, à l'époque, j'étais un enfant très très timide et je n'avais pas du tout envie de me retrouver à gérer ce type de choses-là. Et voilà, enfin, j'étais plus quelqu'un d'assez. Enfin, j'aimais bien la bagarre, j'aimais pas trop. Enfin, voilà quoi, j'avais pas spécialement envie de passer par ces étapes-là de communication ou de. Il y avait tout un côté un peu de manipulation où parce que machin était ami avec machine, ils allaient pouvoir régler le problème plus facilement. Enfin, il y avait déjà tout un tas d'intrigues en fait auxquelles j'avais pas du tout. Accès à cette époque-là, d'ailleurs déjà ça m'intéressait pas du tout et surtout j'avais presque un sentiment de rejet quoi par rapport à ce qu'on attendait à l'époque des enfants. Et puis bon, il y avait tous les dessins animés aussi, les jouets, enfin voilà, tout ce truc-là qui était aussi beaucoup développé. À l'époque, il y avait les Power Rangers. Il y avait deux Power Rangers qui étaient des femmes et ouais. Les autres étaient des hommes. Il y avait la jaune et la rose
bien
évidemment
<sûr. rire>
Et c'est vrai que moi j'étais plus Power Rangers bleu, donc voilà. Mais j'avais pas le droit de. Enfin, je pouvais jamais vraiment le garder en main, ce jouet-là. On me donnait toujours les autres. Donc c'était un peu frustrant, ouais, globalement.
Et quand tu parles du fait que t'as compris qu'il y avait une scission entre les garçons et les filles à cet âge-là, c'est venu plus des adultes ou c'est plus venu des enfants entre eux, notamment peut-être les garçons qui ont commencé à te mettre de côté parce que t'es une fille, ou au contraire les filles qui ont commencé à critiquer ton comportement, enfin, ça venait d'où exactement ?
Bah, c'est assez difficile à dire, mais je pense que ça venait quand même plutôt des enfants, parce que dans mon esprit, en tout cas, quand je revois cette époque-là, il n'y avait presque pas d'adultes, en fait. J'arrive pas à m'imaginer des adultes en train de me parler, hormis mes parents.
Ouais.
Les gens qui nous encadraient, les enseignants, ils avaient autre chose à faire. Et par contre, c'est vrai qu'on était encadrés par des surveillants qui n'étaient pas forcément très branchés théorie du genre ou autre. Et du coup, ils nous mettaient vraiment des étiquettes, quoi. Donc, ouais. Il y avait les garçons qui étaient des gros durs, les filles qui étaient mignonnes, et il n'y avait pas trop d'autres possibilités, quoi. Donc, il fallait essayer de rentrer dans l'une de ces cases pour être un peu accepté par eux. Parce que c'était eux qui, juste, c'était notre justice de l'époque, quoi. Mmh. Quand on faisait des bêtises ou qu'on avait besoin de quelque chose, d'un passe-droit ou je sais pas, ou qu'on avait besoin de faire quelque. Enfin, qu'on avait fait une bêtise, ouais, c'était souvent, souvent ça les histoires. Bah, on était obligé de bien s'entendre avec eux et pour ça, il fallait répondre à leurs critères, quoi. Et une partie de leurs critères, c'était ça. C'était des gens qui étaient assez jeunes, qui n'étaient pas forcément très intéressés par tout ce que ça pouvait nous apporter de bien ou de mal.
Ouais, et puis qui appliquent des schémas, c'est voilà. Beaucoup plus simple quand t'as autant d'enfants à gérer aussi à ouais. Surveiller. Je pense qu'il y avait de la facilité derrière,
ouais,
quoi.
C'est sûr. Puis il y avait déjà pas mal de conflits entre les enfants, quoi. C'était une école où il y avait pas mal d'enfants qui... Quoi, il y avait des enfants assez turbulents, donc je pense qu'il y avait aussi besoin de cadrer d'autant plus...
Oui, il y avait d'autres priorités pour eux, quoi.
Oui, en fait. Non, ça c'est sûr.
Mais c'est marrant ce que tu parles de l'école tout de suite quand on parle de rapport à la féminité finalement, ouais. Parce que c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, mais ça me fait ressurgir plein de souvenirs aussi sur le côté mini-société en fait déjà appliqué et tellement plus dur presque que celle ouais. Des adultes en fait, enfin, c'est vraiment sans pitié, ouais. Chaque fois, moi, je garde surtout un souvenir derrière après de tout ce qui va être collège plutôt sur la partie harcèlement scolaire, mais... Le côté, on appelle souvent ça de la méchanceté, mais je pense que c'est plus complexe que ça. Ce côté mini-société des enfants, ça commence super jeune.
En fait, j'avais l'impression, moi en tout cas, parce qu'il y avait aussi toute la dimension là où j'étais religieuse qui jouait beaucoup.
Okay.
Il y avait plein de communautés différentes en fait, et plein de religions différentes. Et en fait, par exemple, le conflit israélo-palestinien, c'était un sujet en soi qui était réglé dans la cour de récréation, quoi. Et bon, ce qui est complètement fou, quoi. Enfin, quand on n'imagine pas des enfants qui ont 4 ans ou 5 ans et qui débattent de tout ça, sachant qu'on ne comprenait pas grand-chose à quoi que ce soit. On avait besoin d'un truc hyper simple et du coup complètement tyrannique et pas du tout agréable pour qui que ce soit, mais dans lequel vraiment on savait qui était qui parce qu'on fonctionnait vraiment sur les clichés, quoi. En y repensant aujourd'hui, avec mon œil d'adulte, c'est extrêmement choquant. Mais on était vraiment, c'était vraiment ça.
Après, tu parles aussi du fait que on a toutes les deux eu notre enfance dans les années 90, début 2000. C'était quand même une période où, d'un point de vue culturel aussi, tu retrouves en fait toutes ces cases. Hein, ouais. C'était banalisé, normal, et ouais. Se définir comme ça, c'était pas si étonnant.
Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Et puis c'était aussi un moyen de se faire des amis plus facilement parce que c'est un peu... En fait, ma comparaison va être horrible, mais quand je vois des films ou des séries qui se passent en prison, on voit que les gens, quand ils arrivent en prison, pour pas se faire...
Tu rentres dans des groupes ou des communautés.
Exactement. Et en fait, je crois que c'est exactement comme ça qu'on fonctionnait quand on était à l'école. On n'était pas réellement en prison. Mais je veux dire, en tout cas, je pense que pour être bien, pour être bien, on était un peu obligé de passer par ce type de raccourci, quoi.
Ouais, et puis de ce que tu en dis aussi, il y avait une espèce de loi violente qui était exercée aussi,
beaucoup de violence,
hein, beaucoup.
Ouais.
Et du coup, un rapport à la féminité plutôt en colère quand tu étais enfant, du fait de sentir cette exclusion et de plus avoir droit à certaines choses. Comment ça s'est passé à l'adolescence, au moment où le corps change et où souvent on a tendance à faire des raccourcis en disant qu'on devient une femme puisqu'on a nos règles?
Ouais.
Ça s'est passé comment pour toi?
En fait, j'avais été un peu prévenue de ce qui allait se passer. Ma mère m'a expliqué quand j'avais 6 ou 7 ans, elle m'a expliqué que j'allais avoir mes règles et ce que ça voulait dire et qu'un jour, ça donnerait la possibilité, si tout allait bien, d'avoir un enfant. Alors pour moi, c'était vraiment... D'ailleurs, c'est toujours pas non plus le rêve de ma vie, mais ça me fait toujours vraiment, vraiment peur dans l'idée. Et par rapport aux règles, je sais que quand elle m'avait annoncé ça, c'était vraiment dramatique, quoi. Et ça s'est passé comme ça, quand j'ai commencé à avoir mes règles, vraiment... C'est l'un des pires jours de ma vie, enfin voilà, c'était... Moi je l'ai vraiment vécu comme une punition, mais comme, je sais pas, vraiment une punition divine presque. Enfin quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer. Pourquoi c'est les femmes et pas les hommes, enfin bref, tout ça a été...
Tu vas galérer
quand même,
une fois par mois et c'est comme ça et pas autrement quoi.
C'est un peu ça, et j'y voyais pas du tout ce que ça pouvait avoir d'un peu magique ou mystique dans la manière dont ma mère me le présentait quand même. Parce que c'était pas... Son intention c'était pas de me faire peur,
mais attends,
hein, c'était
de m'expliquer. Tôt, hein.
Ouais, j'avais 7 ou 8 ans, mais parce que je me posais beaucoup de questions.
Ouais, mais c'est...
Donc c'est une conversation qui arrive en même temps que comment on fait les bébés, quoi.
Ouais, c'est ça, ok.
Et puis, qu'est-ce que c'est la mort? Enfin, bref, tout un tas de trucs en même temps, voilà. Je pense des questions qu'on se pose quand on a l'âge de raison, entre guillemets, à 7 ans, entre 7 et 10 ans, on fourmille comme ça de questions. Donc, j'avais pas vraiment compris ce que ça voulait dire, hormis du sang et des bébés un jour, quoi.
Ouais.
Mais bon, c'était un peu ça, c'est une vision très réduite de la chose. Mais en tout cas, voilà. Donc, quand l'adolescence est arrivée, honnêtement, je me suis sentie quand même mieux en tant qu'adolescente, femme, qu'en tant qu'enfant-fille. Mais je sais
Mais
pas pour quelle raison.
T'as eu tes règles tôt?
Je les ai eues à 12 ans.
Ouais,
donc, pas particulièrement tôt, mais je crois que c'est à peu près la moyenne, entre 12 et 14, il me semble, en France. Donc, c'est pas extraordinaire. J'avais quand même pas mal de copines qui les avaient déjà eues, donc j'étais pas la première de la bande. Voilà.
Non, mais t'étais pas la dernière non plus.
J'étais pas la dernière.
Moi, je faisais partie des dernières à 14 ans, et ça fait un peu, tu vois, l'effet inverse de ce que toi t'as pu avoir. C'était plus, justement, rajouter des interrogations à tout ça, à savoir est-ce que je suis vraiment une fille, est-ce que ça se trouve, il n'y a pas eu une erreur en fait. Ça se trouve, en fait, je le suis pas, je sais pas.
Ouais.
C'est tout ça qui...
C'est vrai que peut-être que c'est venu apporter un peu une confirmation de ce qu'on m'avait dit, et il y avait une preuve concrète, quoi, que c'était bien ça. Après, voilà, je l'ai vécu de manière... les règles en soi, même encore aujourd'hui, j'oublie systématiquement que je vais les avoir, voilà. Enfin, je suis vraiment dans le déni, quoi, par rapport à ça. Là, j'ai commencé à utiliser une application pour suivre mes cycles il y a pas longtemps, juste pour essayer de prendre en main le truc, et en fait, ça... Enfin, je fais pas du tout de la publicité pour une application.
Tu peux, hein,
voilà.
De toute façon.
Mais je trouve ça assez cool, en tout cas, de pouvoir se rendre compte que on n'est pas tout seul, disons, enfin pas toute seule à traverser ces périodes-là, qu'il y a des symptômes qui veulent dire quelque chose d'un point de vue biologique, et que c'est pas juste aujourd'hui j'ai mal à la tête parce que
les SPM, en fait, les prendre en considération, ce genre de choses.
Mais même tout au long du cycle aussi, c'est-à-dire même pendant les règles, même au tout début du cycle. Enfin, j'ai remarqué par exemple vraiment là depuis que je m'intéresse à ça, ça fait 3 mois, hein, c'est très récent, mais en tout cas, ouais, je me suis rendu compte que par exemple j'ai beaucoup d'énergie au début de mon cycle, et du coup c'est intéressant de pouvoir se dire les trucs qui vont vraiment me demander de l'énergie, je peux essayer de les organiser de cette manière là c'est-à-dire pas faire sa vie en fonction de son cycle, mais en tout cas prendre en compte ça. Et c'est pas juste se dire pas juste a posteriori, ils ont analysé les symptômes et dire oui, c'est vrai que j'étais fatiguée jeudi, c'est parce que si ou ça,
mais pouvoir adapter certaines choses pour que pour toi ce soit plus simple à vivre,
c'est ça, j'utilise pas de manière assidue, mais je l'ai fait pendant quelques mois, et ça m'a apporté un peu de compréhension, et du coup tout ce côté un peu assez incroyable quand même et très impressionnant de ce qu'est capable de faire notre corps, je l'appréhende un peu mieux maintenant qu'il y a quelques temps, quoi. Je suis moins dans le oh mon dieu, c'est horrible d'être une femme, quelle plaie, etc. Je suis plus en train de me dire waouh, quand même c'est impressionnant ce qu'on arrive à faire, et toute la mécanique qu'il y a derrière, c'est hyper intéressant, parce que c'est... c'est juste la nature est bien faite, que je me dis derrière, même s'il y a plein de choses que je vis pas forcément bien, des SPM qui sont pas cool, mais en tout cas, j'appréhende les choses un peu différemment. Disons que je suis moins fâchée contre mon corps, on va dire.
Ça, c'est arrivé à partir de quand? Parce que comment tu passes de justement être en colère à finalement t'as toute cette transformation à la puberté, et aujourd'hui me dire que être une femme c'est des forces et...
Ouais.
plein de choses assez positives.
Franchement, pour moi, en tout cas, sur le côté vraiment positif, c'est hyper récent, mais hyper récent, genre, ça date d'un an, quoi. Pas plus.
Ok.
Alors que bon, voilà, le temps a passé. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs phases. Je pense que la phase collège-lycée, pour moi, c'est un même bloc dans lequel j'ai appréhendé ma féminité plutôt sur... d'un point de vue comment est-ce que je peux enfin tout ce qu'on a comme liberté aussi pouvoir s'habiller de manière différente enfin avec plein de diversité quoi la mode le
tellement
maquillage
plus de choix que les hommes hein,
voilà le maquillage aussi pour camoufler tout ce qui peut nous déranger enfin avoir des boutons quand on est une femme c'est quand même peut-être plus gérable quand on est un homme on peut pas forcément se maquiller ou bref ou se cacher avec une frange des cheveux enfin quelque
en
chose
en tout
qui...
cas c'est pas accepté.
Bah, c'est ça, mais surtout à notre
alors
époque.
Que pour les femmes, c'est ce qu'on attend d'elles. Au contraire,
ouais,
c'est un
ouais.
peu l'inverse.
Ouais, c'est ça.
C'est qu'on t'autorise pas à être avec des boutons, quoi.
Exactement. Ouais, alors ça, c'est clair que. Bah, c'est ça. Par contre, ouais, alors ça, c'est un truc assez récent, mais par rapport au maquillage, j'ai vraiment mis du temps à moins me maquiller et c'est très récent, quoi. Pour le coup, c'est un peu effet confinement ou même un peu télétravail, ou avant ça, j'étais en freelance, donc j'avais déjà commencé à. Enfin, à partir du moment où j'avais plus d'interaction quotidienne avec des gens, où je devais voir des gens tous les jours, j'ai un peu lâché. Et maintenant, je le vois vraiment comme une activité de plaisir. J'ai l'impression que c'est plus pour moi, mais du coup, c'est quand même très récent.
Mmh.
Et après, sur la partie études supérieures, et, enfin, en ayant quitté, disons, le collège et le lycée, où c'était plutôt... enfin, il y avait bon, tout ce côté positif, un peu de liberté de tout ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut jouer avec son corps, etc. Mais à partir des années d'après, des études supérieures et tout ça, je l'ai plus vu à ce moment-là comme une faiblesse parce que j'ai commencé à m'intéresser à ce qui allait se passer dans ma carrière et tout ça et à la perception que je pouvais avoir. Et du coup, je me suis posé ces questions-là. Je me suis demandé voilà, est-ce que finalement cette féminité, elle redevient pas à ce moment-là un peu une tare parce que ça nous a permis de sentir libre, d'exister un peu autrement, de jouer avec nous-mêmes, d'essayer plein de choses pendant pas mal d'années où on a un peu de liberté quand même au collège et au lycée. Et puis là, tout d'un coup, on se retrouve à nouveau jugé, enfin parce qu'on est une femme, parce que enfin il y a aussi ce spectre. Enfin pour moi, je vois un peu comme un spectre là, comme ça, une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors certaines personnes vont en parler comme de l'horloge biologique, d'autres comme la capacité
la maternité en fait,
à procréer, etc.
Avoir des enfants.
Voilà. Et puis il peut y avoir aussi le désir d'être mère, etc. Mais il y a plein de termes différents, disons, qu'on va employer par rapport à ça. Mais c'est comme si ça mettait un peu un point d'arrêt à quelque chose, donc qui est aussi le démarrage d'autre chose. Mais voilà, en tout cas quelque chose où il faut arriver à circonscrire dans le temps tout ce qu'on a envie de faire avant, enfin, et qu'on peut pas forcément faire après, une fois qu'on... Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Enfin,
bah, c'est une image où on présente beaucoup, effectivement, de limites en te faisant comprendre que avant d'avoir des enfants, il faut faire un maximum de choses, parce qu'après, quand tu auras des enfants, tu ne pourras plus les faire. Alors, certes, il y a plein de choses que tu peux pas faire, mais ça veut pas dire que ta vie s'arrête. Et on te met une autre deadline plus tard en te disant bah voilà tu vas être ménopausée donc à partir de là tu seras plus vraiment une femme, tu auras plus vraiment de désir sexuel, tu pourras plus procréer, en gros tu seras périmée à ce moment-là.
Ouais.
Et on te dit ça pour 40 ans alors qu'on va te dire qu'un homme devient mûr et intéressant à 50. Enfin,
ouais,
il y a
ça.
Un vrai problème de...
ouais.
Là-dessus de curseur, effectivement, et ça met une pression en plus, ouais. Alors que c'est une pression totalement non justifiée, sachant qu'on sait que cette histoire d'horloge biologique, bah justement, les femmes vivant plus longtemps, les conditions de vie s'améliorant, il y a plus de risques à accoucher plus tard, mais en fait, pour beaucoup, la ménopause n'arrive pas à 40 ans en toquant à ta porte.
Donc, ouais, c'est sûr, ouais. Non, puis bon, quand on parle de risques aussi, il y a tous les risques psychologiques, quoi, qui peuvent être de finalement pas se sentir bien en tant que mère, parce qu'on s'est mis la pression... pour faire ça rapidement. Bon, après, moi, j'ai un cas particulier. Ma mère, elle m'a eu tard. Enfin, tard pour les années 90. Elle avait déjà 36, 37 ans.
Ouais.
Et il y a eu ma petite sœur derrière. Donc, voilà, c'était quand même pas forcément le plus courant. Mais je sais qu'elle, en tout cas, elle était sûre, quoi. En fait, c'est ce qui vraiment... C'était pas parce que ses parents lui répétaient depuis des années que... Enfin, voilà, il n'y a pas eu de pression extérieure, quoi. C'était vraiment parce que c'était son envie à un instant T. Et voilà, et que son corps en était capable. Bien sûr, parce que ça compte, évidemment. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même ce côté un peu de date de péremption qui plane un peu au-dessus de nos têtes, j'ai l'impression. Et puis bah, toute la pression sociale qu'il y a autour de ça aussi, le fait de se mettre en couple à partir d'un certain âge, pour compter que en tant de temps, la relation a assez de temps pour se stabiliser, et pour se consolider, pour ensuite pouvoir anticiper de vivre dans un espace plus grand, de devenir propriétaire, enfin, y a tout ce qui est rattaché en fait, mais qui est ces injonctions sociales qui sont aussi faites aux hommes pour le coup. Pour tout ça, mais bon, du coup, voilà, enfin, en tout cas, la liberté, j'ai l'impression qu'elle s'est arrêtée vraiment nette au moment du baccalauréat, alors que moi, je le voyais un peu avant comme un peu un tremplin pour aller vers encore plus de liberté, alors qu'en fait, pas du tout. Et j'ai pas l'impression que ça se soit spécialement arrangé avec l'entrée dans le monde du travail, où là, si on peut encore un peu s'habiller comme on veut et se comporter un petit peu comme on veut quand on est étudiante, après, c'est plus compliqué. Enfin, ça dépend évidemment des cadres de travail, mais là, pour le coup... il y a encore plus de possibilités d'être jugé parce qu'on ne rentre pas dans les cases de ou qu'on ne correspond pas à tel ou tel code, et ça demande quand même de choisir un cadre de travail dans lequel on va se sentir bien, ou alors d'être capable de passer au-dessus de tout ça.
T'as senti cette pression-là, toi, en rentrant dans le monde du travail ?
En fait, je l'ai plutôt senti quand j'étais en stage, et du coup, je ne suis pas du tout allée...
Parce que le statut de stagiaire en tant que jeune femme, en plus...
Ouais, complètement, et c'est vrai que toutes les blagues un peu déplacées... en fait, c'est surtout les commentaires des collègues masculins et le comportement des collègues masculins qui peut être problématique, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que c'était plutôt quelque chose que j'avais vécu dans des milieux type agence de communication... où je ne suis pas allée, du coup, en finissant mes études, quoi. Et du coup, j'ai pas vraiment vécu ça après en entreprise, pour le coup, j'étais dans des environnements sains.
Mais même dans un environnement sain, de sentir, tu vois, la pression de devoir t'habiller d'une certaine manière, parce que tu rencontres un client, un prestataire, j'en sais rien, tu vois.
C'est ça, et puis surtout pour moi, jusqu'à vraiment il y a pas longtemps, encore une fois, il y avait aussi cette histoire du maquillage en plus, donc ça veut dire vraiment se réveiller tôt le matin, et passer presque entre une demi-heure et une heure à se préparer, et avec beaucoup de charge mentale sur il faut que tel vêtement soit propre tel jour, parce qu'il faut que je mette une chemise, mais pas celle-là, parce que celle-là est trop transparente, celle-là fait pas assez professionnelle, celle-là fait trop jeune, celle-là fait trop vieille. Il faut trouver vraiment le bon équilibre pour en fait être perçu de la meilleure manière. Et en fait, c'est pas tant se mettre en valeur, mais ne pas se dévaluer, quoi, face à la personne, ce qui est pas du tout la même logique, quoi. C'est-à-dire vraiment ne pas montrer de faiblesse, c'est pas la même chose que montrer ses forces, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris plus en étant à mon compte, pour le coup, en freelance, en ayant des rapports complètement différents avec des gens qui sont pas mes employeurs, ni mes managers, ni mes collègues, mais des clients. Et en étant du coup vraiment dans une approche de conseil où en plus j'étais seule, donc vraiment la seule à avoir l'information ou la capacité à apporter quelque chose. Et ça m'a permis vraiment de prendre conscience aussi de tout ce que j'avais d'autre en fait à apporter, que de pas avoir de boutons visibles sur mon visage ou une chemise qui est exactement celle qu'il faut, qui est bien coupée et dans un beau tissu, quoi. Et d'autant plus qu'il y a toute une partie de ce travail-là qui a été fait à distance, donc du coup en visio, donc avec un... En fait, ça m'a permis vraiment de, je pense, de prendre du recul, quoi, par rapport à tout ça, et de
t'affirmer pour ce que t'es, en fait, plus pour ce qu'on voit de toi, quoi.
Ouais. Vraiment pour mes qualités professionnelles, et en fait un peu comme un homme, quoi, dans ce que j'imagine, en tout cas. Un peu ça, et avec du coup des rapports beaucoup plus fluides, quoi. C'est vraiment sur toute la partie de démarchage, les rendez-vous, les échanges aussi sur les factures, sur tout ça. Je me suis pas sentie femme, au sens, je me suis pas sentie
rangée dans ton genre,
en tant que prestataire, mais non
en tant qu'interlocutrice, en fait, experte dans son domaine,
en tant que conseil, quoi. J'étais vraiment comme s'il y avait une confusion totale entre ce que je faisais pour les, enfin, ce que j'apportais comme service ou comme conseil, et ma personne, quoi. Et c'était la première fois vraiment qu'il y avait ce
en tout cas,
ouais, ce sentiment-là, et c'était hyper agréable, quoi.
Ce sentiment-là, tu l'as pas auparavant dans ta vie personnelle, dans tes interactions? Ça a toujours été assez, je sais pas trop comment tourner ça, mais genré?
Quand même pas mal. Enfin, en tout cas, dans mes relations amicales et mes relations amoureuses, toujours.
Ah ouais, ok.
Toujours. Mais déjà, je suis restée amie avec... comme amie très très proche des gens que j'ai rencontrés assez tôt dans ma vie, au collège. Et du coup, je pense qu'on a pris un certain pli, et on a appris à se connaître d'une certaine manière. Aujourd'hui, on continue à fonctionner un peu avec les mêmes schémas. Donc on est vraiment, enfin il y a quand même eu toujours notre groupe d'amis filles et des garçons autour
qui gravitent autour, ouais.
Qui étaient soit nos copains, soit pas nos copains, soit des amis mais qui à un moment donné sont devenus nos copains puis après qu'ils l'étaient plus, enfin voilà. Mais en tout cas le noyau dur, disons, qui a survécu à toutes ces années, ça fait quand même long mine de rien, hein, on parle de presque 20 ans maintenant. C'est vraiment des personnes, c'est des filles quoi. J'ai peu d'amis garçons que j'ai gardé vraiment amis pendant très longtemps, sans qu'il y ait à un moment donné des gros clashs, des gros problèmes en fait liés à notre genre, liés à des histoires
de séduction comme ça,
ou des histoires de copains ou de copines avec qui on s'entend pas. Enfin, voilà quoi. C'est vraiment très difficile. Enfin, c'est assez triste, mais l'amitié fille-garçon c'est quand même vraiment rare et compliqué, en tout cas de mon expérience à moi, et ça a toujours été quoi. Alors que vraiment, c'était pas du tout mon ambition quand j'étais enfant, quoi. Je me voyais pas du tout déjà être amie avec une fille. Enfin, j'ai commencé à être amie avec des filles parce que j'avais plus le choix, quoi. Enfin, c'était même pas pour avoir des amis dans l'absolu, mais parce que j'étais obligée de me faire accepter par les filles. Et pour ça, il fallait que je leur, je sais pas, que je fasse allégeance d'une certaine manière au groupe des filles, quoi. Mais j'ai toujours été un peu gênée quand même par ce concept de groupe.
Ouais, et puis on encourage beaucoup les filles à fonctionner effectivement en petits groupes dans lesquels tu dois être acceptée. Il y a plus ce côté rite initiatique avant de faire partie du groupe que chez les mecs, j'ai l'impression en tout cas.
Et pour les garçons, il y a quand même, enfin de leur côté, ils ont aussi leur problème. Eux, pour rentrer dans des groupes ou quand ils n'ont pas une passion, enfin eux, ils deviennent amis parce qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt quoi. Nous, on ne devient pas amis avec des filles forcément pour cette raison-là. On peut devenir amis pour tout un tas de raisons et d'ailleurs parfois sans raison. Là, il faut vraiment qu'ils partagent une activité en commun pour qu'ils deviennent amis initialement, en tout cas quand ils sont à l'école ou même au collège, hein. Enfin voilà, il y a vraiment, il faut attendre longtemps avant que l'amitié se construise sur d'autres bases que celle-là. Et après, il y a toujours les activités type aller au bar, picoler, etc. Donc d'autres activités qui sont pas uniquement des activités masculines, bien
sûr. Non, mais qui sont très genrées quand même.
Mais quand même, ouais. Et surtout, aller voir un match de foot et boire une bière au bar, enfin faire ce genre de choses-là. Et c'est quand on rentre pas dans ces critères-là non plus, quand on est un homme, ça n'a pas forcément été évident. C'est pas si évident que ça non plus de se faire accepter. Bon, après, la diversification des activités se fait au moment où on vieillit, quoi. Après, on peut devenir amis parce qu'on
et a encore, le même moi, livre, je trouve qu'il y a quand même une binarité très forte, hein, dans les centres d'intérêt. En tout cas, de ce que les gens veulent bien en montrer. C'est aussi ça, c'est que il y a plein de mecs ou de meufs qui adorent certaines activités et qui ne disent absolument pas publiquement. Et tu le vois surtout sur les applis de rencontre. C'est un grand truc qui me fait hurler de rire à chaque fois. Les profils de mecs. S'il n'y a pas une bière, de la barbec et une fois sur deux du foot ou du sport,
ouais.
C'est ultra rare. Tu tombes forcément sur ça. Et il y en avait certains, vraiment, au bout d'un moment, j'étais, mais c'est pas possible. Enfin, c'est quoi le problème de toujours spécifier que t'aimes le steak? Enfin, c'est cool. Enfin, tu sais cuisiner bien.
Ouais.
Mais pourquoi le mettre en avant comme ça? C'est comme si les meufs, à chaque fois, on mettait en avant qu'on adore les avocats. Enfin, il y a vraiment ce truc, tu sais, très genré, justement, qui ressort. Et je me suis dit, waouh, alors qu'on approche de la trentaine, et il y a encore ça.
Ouais.
C'est ultra ancré.
Moi, j'étais alors quand j'étais au lycée, j'étais en L, donc il y avait quand même principalement des filles, donc c'était un environnement ultra toxique. Ultra toxique. Et après, comme toi, on a fait des études de communication toutes les deux. Moi, avant de te rencontrer, j'étais dans deux autres écoles. Une école où il y avait beaucoup, beaucoup de garçons, mais ça se passait pas mieux, hein. Enfin, d'ailleurs, voilà. Et où c'était donc une école de mon quartier, une école privée, donc quand même avec un peu des fils et des filles à papa, mais. Mais bon, voilà, des gens quand même plutôt, enfin, pas forcément tous très riches, hein, d'ailleurs, mais qui étaient quand même assez motivés par les perspectives d'emploi derrière. Et c'était pour ça qu'ils étaient là. Et donc le diplôme. Puis une autre école dans 16e arrondissement où là, il y avait vraiment des gens qui avaient des activités en commun, mais qui étaient assez particulières, genre... la chasse à cours, le ski à Megève, etc. Donc, et c'est des gens qui, bon, au final, il n'y a pas vraiment de distinction, entre, a priori en tout cas, entre les hommes et les femmes dans les activités. J'ai l'impression qu'il y en a moins, en fait, selon le statut social. En tout cas, on est plus facilement intégré à un groupe sur des activités sportives en particulier, mais ça reste des activités sportives assez élitistes. Alors que, par exemple, si on n'a pas la possibilité d'avoir de loisirs, qu'on est un couple qui peut pas trop avoir de loisirs parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on va se retrouver à être peut-être, quand on est une femme, un peu cantonnée à des activités ménagères, Et quand on est un homme, peut-être avoir d'autres options mais, qui restent limitées, mais qui sont peut-être pas les mêmes que sa copine, par exemple.
C'est drôle parce que je pense que ça dépend aussi vraiment de l'éducation et du milieu et de ce que t'en vois, parce que sur des gens qui ont les moyens, à plus haute échelle sociale, je trouve que t'as encore quand même une grosse séparation, à savoir, effectivement, t'as le week-end à Megève. Mmh. Déjà, faut se payer le week-end à Megève.
Ouais, c'est sûr.
Mais lors du week-end à Megève, ça va plutôt être les mecs qui vont faire du snow et les meufs du ski. Mmh. Les mecs vont aller, j'en sais rien, justement, boire un coup après, voilà, après une journée, alors que les meufs vont rester à faire la cuisine. Enfin, il y a quand même ouais. encore ce truc-là, hein, très ouais. ancré, et que tu vois, peu importe le statut social. Mmh.
C'est l'accès au sport, je trouve, qui est un petit peu plus facilité.
Ouais, mais c'est ça reste raison de moyen, en fait.
Complètement,
hein.
Ouais. Mmh. Mais pas que. C'est aussi pour entretenir son corps, c'est aussi pour
oui,
d'autres choses.
Et puis, c'est quand même, ça reste les sports féminins, les ouais. sports masculins, ouais. ou alors dans un même sport, bah, t'as quand même, j'en sais rien, au tennis, c'est les femmes contre les femmes, les hommes contre les hommes, ouais. et tu vas jamais voir un match mixte.
C'est vrai qu'il y a un passage comme ça aussi à l'école où on arrête de jouer contre les garçons.
Ouais.
Et ça arrive au collège, et c'est vrai que tout d'un coup... Et d'ailleurs, en ce qui me concerne, je crois que c'était même au milieu du collège. Je crois que ça s'est fait à partir de la quatrième, ce qui est quand même vraiment très bizarre.
Est-ce que c'est pas lié au rapport de séduction aussi qui commence à ce moment-là? Parce que quand t'es petit, c'est plus... on attrape, enfin, je sais que nous on jouait à un jeu, c'était genre attrape bisou, et c'était les mecs qui devaient courir après les filles, les attraper, leur faire un bisou de force, et puis hop, ils continuent à courir après d'autres meufs. Super!
<C'est sain. rire>
Ça donne une bonne idée. Je sais plus où j'allais avec ça. Non, j'ai plus.
C'est pas grave.
Du tout. Non, mais c'est bien, ça me fait une transition sur du coup ton rapport aux hommes en fait, derrière. Quel est-il? Je te vois hausser les sourcils.
Non, on pourrait dire ça dépend. Ça, c'est un petit peu
aujourd'hui
quand
en tout
on
cas.
Dit,
ouais.
Quand on dit non, mais il y en a des biens quand même. Voilà, je serais un petit peu dans cette
not all men.
Dans cette team. Voilà. Okay. Mais non, enfin, j'avoue que ce qui me dérange le plus, c'est vraiment d'un point de vue pour le coup interpersonnel. Les relations entre les hommes et les hommes, et les relations entre les hommes et les femmes, et entre les femmes et les hommes. Et ça, ouais, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et ce qui me pose le plus problème, et ce avec quoi je lutte le plus, et ce avec quoi je perds le plus de temps, je pense, au quotidien, et je dépense le plus d'énergie sans forcément de retour sur investissement, mais c'est vrai dans ma relation avec mon père, dans ma relation avec les hommes de ma famille en général, avec des hommes avec qui je travaille, ou avec qui j'ai pu travailler, ou avec des amis, ou avec des petits copains. C'est toujours cette histoire de communication quoi, qui est pas du tout équilibrée, où il y a vraiment un apprentissage que je dois faire à chaque fois que j'entame une relation, à la communication, à l'expression des émotions, des sentiments.
On associe
en fait.
Aux femmes en fait, ouais. Au moment de l'éducation. Hein.
Ouais. Et en fait, on peut pas faire sans quoi. C'est-à-dire qu'une relation, quelle qu'elle soit, en fait, elle peut pas fonctionner sans ça. Et voilà, et c'est vraiment très fatigant. J'aimerais bien que quelqu'un écrive un livre.
Comment faire pour les nuls.
Voilà.
Comment communiquer.
Et qu'il soit distribué aux garçons à partir de l'âge de 11 ou 12 ans.
Oh, même avant, je pense. Hein.
Ouais, mais au plus tard, disons, à ce moment-là. Ouais. Mais effectivement, je pense que... Bon, après, les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens et c'est très bien.
Puis plus t'en parles aussi avec ton entourage, ouais. même si c'est très fatigant et je comprends qu'on puisse pas le faire tout le temps.
Mmh. Il faut mais... choisir ses combats, quoi.
Ouais,
il faut
c'est
voir
ça.
Avec qui
mais
ça,
ça
vaut
plante
la peine,
quand même des petites graines, je pense, pour ouais. la suite. Enfin, mmh. le nombre de mecs à qui tu dis quelque chose, sur le coup, ils font « Oh, mais non !» Et en fait, tu les entends 6 mois plus tard ressortir mot pour mot ce que t'as dit à un autre gars et tu fais « Ah, c'est bien ouais. !» Je suis fière de toi, mais sur le coup, t'étais pas obligée de me dire « Mais non !» Tu pouvais juste dire « Oui, tu as raison !»
Ouais, c'est ça.
Ou alors « Je t'ai entendu, je suis pas forcément d'accord, laisse-moi mûrir le truc. »
Ouais. En fait, il y a des hommes qui ont envie
de bien faire.
D'évoluer. Et pour eux, d'abord. Enfin, ouais. Pour devenir des hommes meilleurs.
Puis se libérer et aussi de toute une pression. Et il y en a
ça,
beaucoup
ouais.
qui comprennent que c'est dans les deux sens, en fait.
Ouais. Ah ouais, pour aussi être plus dans l'acceptation vis-à-vis d'eux-mêmes, pour ben voilà, vraiment je pense qu'on a tous à y gagner, à identifier mieux nos émotions et à arriver à mieux les transmettre aussi aux autres quand c'est nécessaire, hein. Je dis pas forcément ouais. en permanence, mais voilà. Mais c'est vrai que ça aide à dénouer pas mal de problèmes qui restent insolubles sans ça, quoi. Enfin, voilà, c'est... Donc ouais, c'est vraiment ce sujet-là, quoi, le sujet de la communication. Alors après, c'est le métier en plus que j'ai choisi, mais comme toi.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça que ça m'importe d'autant plus, mais je trouve que parfois il y a vraiment un problème de compréhension vraiment de part et d'autre, quoi, de ce que les uns et les autres veulent, de ce qu'ils voient, de ce
qu'ils... En fait, c'est ça, c'est deux visions, je pense, aussi totalement différentes. Et c'est bien, ça m'a fait pop ce que j'avais perdu tout à l'heure, le fil de ma pensée. En fait, tu parlais du fait que le rapport au garçon et le regard changent d'un coup quand t'étais au collège, et je disais que oui, c'était au moment où le rapport de séduction commence à se créer, et non, ça m'y faisait penser. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand on est enfant, on joue à attrape-bisous, on se court après dans la cour, mais les filles, ça reste dégueulasse, et les garçons, burk, voilà, oui. De part et d'autre. Et quand t'arrives au collège, c'est là où t'as tes premiers potes qui commencent à se tourner autour, où les hormones commencent à tous nous travailler un petit peu, et c'est le moment où t'as les vrais premiers couples. Quand t'en as en primaire, mais ou en maternelle, mais c'est plus occasionnel, et on se marie, et t'as 8 maris différents, et voilà. Mais c'est pas les mêmes enjeux, en fait, et la dimension aussi sexuelle rentre pas forcément, enfin rentre pas du tout dans le scope, alors qu'à partir du collège, t'as cette dimension sexuelle, t'as aussi ce qu'on se disait, le côté de mini-société, mais en fait qui perdure, hein, à ce moment-là, c'est il faut que tu sois en couple et du coup c'est pour la vie. Donc tu te mets une pression de fou. Et le rapport aux garçons change beaucoup de par ça aussi, le rapport de séduction, c'est le moment où on commence à se maquiller parce que t'as pas envie qu'ils te voient avec des boutons, qu'ils te trouvent moche, tu commences à mettre beaucoup ton estime et ce que t'es toi dans le regard des autres, en fait, mais encore plus dans le sens où là c'est le regard des garçons qui te demandent une validation. S'ils valident, ça veut dire que tu es aimable, qu'on peut t'aimer à un moment, qu'on peut te désirer, qu'on peut avoir envie de toi.
Ça définit en fait ta valeur dans leurs yeux et du coup dans les tiens, in fine, quoi. Mais c'est vrai que moi j'étais pas très sensible, enfin j'ai toujours essayé en tout cas de vraiment garder de la distance par rapport à ça, par rapport à la manière dont les garçons me voyaient, mais après c'est la manière dont les filles me voyaient m'intéressait aussi, donc et c'est aussi une pression qu'on,
Le jugement
qu'on se met,
bien
sûr, mais moi j'ai quand même toujours eu plus de problèmes avec les filles qu'avec les garçons. De ce point de vue, enfin, je trouve qu'il est bien plus facile, puisque les hommes ne s'expriment pas, d'ignorer leur avis plutôt que d'ignorer celui des filles. Donc je pense que c'est aussi pour ça que c'était... J'ai un rapport un peu particulier, quoi. Je pensais à un truc, mais j'ai oublié ce que c'était, mais je crois que c'était intéressant. Ça allait dans ce sens-là. Je sais plus.
On oublie toutes les deux ce qu'on a à dire. En même temps, il est tard et il va falloir aussi que tu puisses rentrer chez toi. Donc je
pense quelle heure, là ?
Il est 17h38. Donc si tu veux, on va écourter.
Vas-y.
Du coup, terminer avec la dernière question que je pose à tous les invités. Si là, tout de suite, tu pouvais prendre une décision qui s'applique instantanément à toutes les femmes à travers le monde, ce serait quoi ?
Waouh, c'est une
T'as
grosse,
un super pouvoir, grosse responsabilité. Dis-toi que voilà, je suis gentille, je te laisse prendre une décision, mais je laisse prendre des décisions aussi aux autres. Donc si vous prenez pas tous la même, normalement il se passe plein de trucs cool pour les meufs d'un coup.
Ok, c'est plutôt bien. Je réfléchis. Je pense que ça serait vraiment la suppression de l'injonction à être une femme au sens de ce qu'on peut imaginer comme... que juste ça n'existe plus, qu'il n'y ait plus de standard, quoi. Que ce standard de la femme qui est à la fois une bonne mère, une bonne épouse, une bonne tout ce qu'on veut, enfin, peut-être même aussi une femme qui travaille, parce qu'aujourd'hui on peut aussi voir de l'injonction là-dedans.
Une boss bitch en même temps, une meuf aussi, on joue toujours sur le côté à la vierge ou la catante, tu vois, il y a un peu ça.
En fait, on nous demande des choses qui sont pas compatibles les unes avec les autres, quoi.
Et puis d'être formidable et au top sur tous les plans, mais pas trop non plus, parce qu'il faut pas trop briller, il faudrait pas faire de l'ombre.
Faire de
l'ombre. Attention, faut pas prendre des postes à responsabilité non plus. T'as le droit d'être une boss bitch, mais à ton compte, pas dans une entreprise.
Mais c'est un peu le souci que j'ai avec certains exemples de rôle modèle, mais c'est plutôt la version américaine. Parce que je trouve que ça me met aussi la pression, quoi. Enfin, c'est pas
carrément.
Voilà. Donc, supprimer vraiment ce standard, quoi. Qu'il n'y ait plus d'échelle, en fait, de une mauvaise ou une bonne femme. Une bonne femme, c'est aussi d'ailleurs une insulte, mais justement.
Beaucoup trop d'insultes féminines, de toute façon, de manière générale.
Mais ouais, en tout cas, supprimer tout ça.
Ok, bah merci beaucoup, Marion.
Merci à toi. What?